place publique.
Pour certains, ce n'est rien de moins que la démocratie directe qui est en jeu. L'initiative Nobilag, soumise au peuple le 4 mars prochain, propose de supprimer la redevance. Les uns parlent d'une économie salutaire pour les ménages, les autres annoncent l'écroulement du paysage audiovisuel actuel en Suisse. Est-ce pour le rebâtir plus beau qu'avant avec l'argent du privé? On en débat dans un instant avec nos deux invités. La lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent se renforce et se développe en Suisse. Confédération, canton et communes lancent un plan national de prévention. 26 mesures en tout seront mises en œuvre ces 5 prochaines années. Et on en parle vers 18h35 avec André Duvillard, délégué du Réseau national de sécurité. Enfin, le 6 décembre, c'est avant tout la Saint-Nicolas, bien sûr. Mais pour les Suisses, cette date rappelle aussi un vote historique. Il y a 25 ans, 50,3% des citoyens disaient non à une entrée dans l'espace économique européen. Claude Frey et François Lachat, deux anciens conseillers nationaux, seront avec nous en dernière partie d'émission.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Après plus de 30 ans d'existence, à vos côtés et au quotidien, RJB, RTN et RFJ jouent leur survie le 4 mars prochain. L'initiative Nobilag visant à supprimer toute redevance de l'État pour les radios et les télévisions est soumise au vote dans 3 mois. Un sondage publié dans la presse dominicale et mené sur Internet donne cette initiative gagnante. Est-ce un bon calcul de supprimer la redevance? Qu'est-ce qui va disparaître si le oui l'emporte? Et à quoi ressemblerait le paysage médiatique? On en débat avec nos deux invités. Tout d'abord, Nicolas Youtset, bonsoir.
Bonsoir.
Vous présidez le comité de campagne Nobilag en Suisse romande. Et à vos côtés, vous êtes aussi jeune libéral radical. Et à vos côtés, Mathieu Beglin, en tout cas au studio avec nous, président du conseil du public de la RTSR, l'organe représentatif des auditeurs et téléspectateurs, qui examine donc la qualité des programmes. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Nicolas Youtset, on commence avec vous. Vous me permettez cette question. Alors vous n'avez pas hésité une seconde à venir débattre sur nos ondes. D'ailleurs, on vous en est très reconnaissant. On vous en remercie. Pourtant, votre texte mettrait en péril les rédactions des radios régionales comme le nôtre et hypothétiquement pourrait empêcher la tenue d'un débat comme celui de maintenant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal?
Bon, alors premièrement, on accepte toujours les débats parce qu'on veut évidemment donner une information précise à la population et c'est important qu'une initiative populaire puisse donner son avis. Et je crois que vous faites fausse route en disant que ce genre de débat n'existe que grâce à la redevance. Il existe notamment dans la presse écrite qui laisse la place à toutes les émissions, qui laisse la place au débat de manière assez large. Et il n'y a pas de raison qu'elle n'existe pas dans le futur sur les radios et les télévisions locales parce que notre initiative s'attaque juste aux moyens de financement. Elle ne s'attaque pas du tout à l'indépendance des rédactions. Elle ne s'attaque pas du tout à un média précis. Donc notre initiative, elle rend juste la liberté de choisir aux citoyens. Elle dit que le citoyen est assez grand pour choisir comment est-ce qu'il veut dépenser son argent, mais il ne veut pas du tout limiter le débat. Il ne veut pas attaquer la démocratie. C'est une initiative populaire. Donc c'est la quintessence de la démocratie. Donc de nous reprocher de vouloir mettre en danger les médias, de mettre en danger la démocratie, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens à nos yeux.
Mathieu Beglin, c'est le moyen de financement qu'on attaque avec cette initiative et non pas l'existence même des radios et des télévisions.
Mais c'est l'existence des radios et des télévisions publiques ou ayant droit à une mission d'utilité publique comme la vôtre, qui est une radio privée, mais qui touche une quote-part de la redevance, précisément notamment pour son rôle d'information et de présence régionale. Et c'est ça qui est attaqué. Le problème de cette initiative, tout d'abord, c'est que le titre est trompeur. Le titre, c'est Nobilag, et on croit qu'en fait, on s'attaque à la société Bilag, dont les méthodes de recouvrement sont effectivement assez insupportables. Mais Bilag a déjà perdu son mandat. Dans une année, c'est une autre société, Serafé, qui va avoir ce mandat-là et qui le réalisera d'ailleurs pour beaucoup moins d'argent. Ça, c'est un premier élément. Donc derrière, il faut regarder ce qu'il y a dans le texte et j'invite vraiment les auditrices et les auditeurs à aller chercher le texte et à voir ce qui est supprimé. Il y a une chose qui est très claire. L'initiative interdit formellement à la Confédération de soutenir quelques médias audiovisuels que ce soit, sous quelque forme que ce soit à travers une redevance ou à travers un subventionnement qui est marjoré à l'impôt ou autre, c'est simplement interdit. C'est donc une privatisation totale du marché audiovisuel suisse qui est laissée, avec encore cet élément important, c'est que les futures concessions ne seraient plus attribuées sur un certain nombre de critères, notamment de qualité de contenu, de cohésion nationale et autres, mais uniquement sur le critère de l'argent, puisqu'il est proposé de les mettre aux enchères. C'est donc les plus offrants qui pourront le faire, ce qui fait qu'au final, ce sont des grands groupes de presse déjà existants, français, allemands ou italiens, que ça pourrait intéresser, ou quelques milliardaires, dont un certain Christophe Blocher, qui a déjà commencé à racheter plein de titres de presse.
Nicolas Youtset, 2017, c'est ouvrir la porte au privé à une forme de blanchérisation du paysage audiovisuel. Est-ce que ce n'est pas courir un trop grand risque pour la qualité de l'information?
J'ai entendu le début de l'intervention, mais pas la fin, mais je peux répondre déjà au début. Donc sur le fait que l'initiative serait trompeuse, le texte de l'initiative, donc le titre, ne mentionne pas nos bilags, hein, c'est juste la suppression des redevances bilags. Donc déjà, le titre n'est pas trompeur. Et peut-être répondre sur le fond, notre initiative n'empêche personne de trouver des moyens de financement alternatifs. Donc de nouveau, te dire que les médias vont disparaître, c'est une erreur.
Quant au mode de financement, la privatisation des fonds qui permettrait à des médias de revoir le jour ouvrirait la porte à une forme de blanchérisation du paysage audiovisuel. C'est ce que craignent beaucoup de monde.
Bon, alors c'est une crainte qui déjà n'est pas fondée en tant que telle, vu que M. Blocher a dit déjà aujourd'hui qu'il allait pas investir dans le paysage audiovisuel en Suisse romande, et notamment qu'il ne s'intéressait pas de manière générale à la télévision. Donc c'est déjà une sorte de faux débat. Et dans le futur, il n'y a pas de raison que les Suisses qui apprécient aujourd'hui les programmes de la SSR en général et de la RTS précisément encore beaucoup plus, il n'y a pas de raison que demain ils commencent à apprécier une TV blochère beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce qu'on voit très bien que l'électorat du DC, c'est 30% de la population. Donc il n'y a pas tout à coup une énorme télévision qui va s'imposer.
Qui aurait les moyens d'investir pour créer une télévision, une radio dans des régions comme par exemple celle de l'Arc Jurassien, qui sont des régions, on peut le dire, quand même périphériques par rapport au bassin zurichois?
Mais rappelons que notre initiative ne fait pas mourir ces radios-là. Donc elles peuvent exister dans le système actuel et nous aurons juste besoin d'avoir des abonnés, des gens qui les soutiennent. Donc ça peut être les citoyens de la région, ça peut être le canton, parce que notre initiative interdit donc la subvention au niveau fédéral, mais pas au niveau cantonal et communal. Et c'est vrai que si un canton comme Neuchâtel, par exemple, refuse l'initiative le 4 mars, il n'y a pas de raison logique qu'elle s'oppose à introduire une redevance sur le plan cantonal. Ce n'est pas quelque chose qu'on encourage, mais ce serait somme toute logique. Si un canton adoube le principe de la redevance, ce serait logique qu'elle puisse imposer ça sur son territoire cantonal. Donc il n'y a pas de raison que ces radios-là disparaissent. La seule chose qui va être possible après le 4 mars, c'est un paysage audiovisuel qui est plus gangréné par la distribution actuelle des recettes, qui encourage la position monopolistique de la SSR et qui étouffe ces petites radios-là et ces petites télévisions locales.
Mais voyons, ces radios et ces télévisions ne sont absolument pas étouffées, vous dites n'importe quoi. Elles touchent, pour certaines, jusqu'à 70% de leur financement qui est marge de la redevance. Ça les a même sauvés et ça leur a même permis de se développer. Je vous rappelle qu'en plus des chaînes de radio et de télévision de la SSR, il y a également 34 chaînes de radio et de télévision locales qui sont en soi réellement menacés. Parce qu'il y a une chose que vous semblez, monsieur Youtset, s'il vous plaît, il y a une chose que vous semblez ne pas percevoir dans votre discours, et j'aimerais bien qu'on puisse en débattre. Tout d'abord, vous dites, bon, tout le monde est libre, chacun peut dépenser son argent comme il veut, etc. Et puis ensuite, vous dites, bon, bah alors après, les cantons pourraient finalement réintroduire par la bande ce que vous voulez combattre. Donc soyez cohérents, ne dites pas que ça vous satisferait. C'est le premier point. Le deuxième point, il est très important. Nous sommes dans un pays qui a des topographies, des populations très différentes, qui a également 4 langues. C'est pour ça que la redevance est en soi assez élevée en Suisse, parce qu'on doit produire des contenus dans 4 langues. C'est ça qui coûte véritablement. La production, c'est 85% du budget de la SSR et c'est une part très importante du budget des radios et télévisions locales. Ce qui coûte, c'est de produire une offre. C'est ça qui coûte vraiment de l'argent. Vous ne pouvez pas espérer que l'offre demeure si vous coupez le 80% de ce qui lui permet d'exister. C'est simplement faux.
Nicolas Youtset, une courte réponse, après on vous redonne la parole après le flash.
Bon, encore une fois, on voit actuellement dans les chiffres que tout le monde apprécie l'offre de la RTS et puis les radios-télévisions locales, donc il n'y a pas de raison qu'ils refusent de payer de manière volontaire pour cette offre-là. Nous, on ne vend pas la gratuité, on dit que tout le monde doit payer pour ce qu'il consomme, donc on est plutôt responsable de ce côté-là. Et non, il n'y a pas d'incohérence dans notre discours. Nous, on est pour la liberté, donc la liberté, c'est quelque chose qu'on doit assumer, et si on est solidaire avec les autres régions linguistiques, on doit pouvoir le prouver de manière volontaire. Il faut arrêter d'imposer ce genre de choses-là par la loi. Je crois que les Suisses sont respectueux des différentes minorités linguistiques et se rendent compte qu'on a besoin de médias forts. Donc, à partir du 5 mars, ils seront tout à fait d'accord de payer un abonnement pour ce genre de service.
Place publique. Gabriel Devecq.
Et notre débat sur l'initiative No Bilag, soumise au peuple 4 mars prochain, repart pour un tour. Nicolas Youtset, vous êtes avec nous, vous présidez le comité d'initiative au niveau roman. Un mot quand même sur le montant de cette redevance que vous souhaitez abroger, 451 francs par année. Est-ce que c'est cher payé si on regarde tout ce qu'on peut obtenir finalement avec un tel montant payé une fois par année, surtout que ce montant va baisser pour atteindre 1 franc par jour par ménage? Est-ce que c'est vraiment trop cher payé si on regarde ce que coûte par exemple le pay-per-view ou bien des abonnements à des chaînes sportives.
Bon, alors déjà, sur le nouveau prix, qui est un prix totalement politique, hein, le prix pour les privés va baisser, notamment parce qu'on élargit à beaucoup plus de ménages et parce qu'on transfère la facture aux entreprises. Donc au final, les recettes seront plus élevées qu'aujourd'hui. Donc avec la nouvelle redevance, on ne fait pas baisser le nombre de recettes. Donc déjà, c'est un calcul politique qui ne répond pas à grand-chose. Quant au prix et puis à la relation qualité-prix, ben moi, je suis tout à fait satisfait de l'offre actuelle et je serai totalement prêt à payer ce prix-là de manière volontaire. Donc on verra dès le 5 mars ce que pense la population de la relation qualité-prix qu'induit cette redevance. Mais en tant que tel, on ne peut évidemment pas se plaindre de l'offre. On pourrait se plaindre du manque de liberté de choisir, mais en tant que tel, nous, on ne s'attaque pas du tout de nouveau. On ne s'attaque pas à la RTS, on ne s'attaque pas au contenu des radios et télévisions locales, on s'attaque seulement au principe. Donc de nouveau, nous, on ne peut pas juger de la qualité de l'offre.
Mathieu Béglin.
Oui, mais je crains que vous soyez un petit peu déconnecté d'un certain nombre de choses liées au marché de l'audiovisuel. Vous voyez, en 2005, les Suisses, en plus des 7 chaînes qui sont produites par la SSR, avaient le choix, en câble notamment et autres, à 132 chaînes. On est passé en 2010 à 387 chaînes, pour être maintenant, là, en 2015, à 393 chaînes alternatives. Donc, la liberté de choix que vous prétendez qu'on n'aurait pas à cause de la redevance, elle a au contraire, ça a triplé, il y a 3 fois plus de chaînes de télévision privées accessibles aujourd'hui en Suisse qu'en 2005. Donc l'offre, elle est là. Le problème que vous ne comprenez pas, c'est que déjà les Suisses-Allemands, aujourd'hui, avec la redevance, il y a 30% de ce que payent les Alémaniques qui est reversé aux différentes régions. Il y a un système de solidarité qui est typiquement fédéral, qui est vraiment à l'image de ce pays. Et c'est ça que vous voulez mettre à mal. Ça veut dire que les Tessinois ne pourront jamais tout seuls réussir à investir.
Bon,
vous étudiez à Saint-Gall, je crois. Non, mais vous étudiez à Saint-Gall, je crois. L'économie, sauf erreur.
Oui.
Je vais vous poser une question. Vous êtes un investisseur privé. Vous pouvez investir dans des chaînes de radio parce que l'initiative Nobilag a passé, etc. Vous allez vous porter aux enchères pour la concession radio dans le Jura où il faut 40 émetteurs pour émettre à cause de la topographie du terrain, ou Genève, où vous avez un bassin de population 3 fois plus important pour un seul émetteur à mettre sur le Salève. Vous faites quel choix ?
Déjà, on n'est pas des investisseurs en radio, donc déjà la question ne se pose pas. Mais en tant que tel, dans toutes les régions linguistiques, les radios et télévisions locales sont appréciées, donc il ne faut pas différencier les régions de ce genre, de cette manière-là. Et de toute façon, l'initiative n'interdit pas la péréquation financière entre les différentes régions linguistiques, donc la solidarité ne s'arrête pas à la loi. Ce n'est pas parce qu'on ne force pas la solidarité qu'elle n'existe pas, elle doit même être volontaire, c'est le principe même de la solidarité. Donc si les Suisses comprennent la difficulté de ce pays-là et les différentes régions, avec les différences que vous abordez, qui sont justes, hein, la topographie n'est pas la même partout, la densité de la population n'est pas la même partout, mais ce genre de choses, les Suisses l'ont compris et les Suisses le savent.
Mais la question, donc, monsieur Hutzet, c'est que ce ne sont pas les Suisses qui vont décider tout seuls, chacun dans leur coin, puisque vous voulez mettre ces concessions aux enchères. C'est déjà des investisseurs qui vont faire le choix de savoir où ils ont envie d'investir ou pas, bien avant qu'on arrive à des souscriptions. Le risque que vous faites prendre par dogmatisme, quelque part ultra-libéral, d'ailleurs même le PLR, parti pourtant libéral, ne vous suit pas sur cette question-là, c'est que vous faites prendre un risque majeur, d'une part à la population qui va se retrouver à payer beaucoup plus cher que ce qu'elle paye actuellement, et deuxio, un risque majeur pour l'équilibre médiatique du pays et donc le bon fonctionnement de la démocratie. Je vous rappelle qu'actuellement dans la loi, il y a des obligations, notamment en termes de cohésion nationale et de présentation des faits. Si vous n'êtes pas d'accord avec la manière qu'ont les médias, et ça vaut aussi pour les médias régionaux, de présenter une information, vous pouvez recourir gratuitement à un médiateur et à une instance de plainte. Tout ça, vous le virez de la loi. Donc ce sera le règne uniquement de la loi de l'argent et de la loi du plus fort.
Conclusion, Nicolas Hutzet. Pour vous.
Oui, alors c'est de nouveau oublier que la presse écrite fait aussi un service public, ils accordent un droit de réponse, donc ce genre de choses existe malgré l'absence de loi pour la presse écrite. Donc c'est de nouveau, c'est faire peur à toute la population et oublier que les citoyens doivent être libres de choisir. Et il ne faut pas avoir peur de la liberté des citoyens. Arrêtez de faire peur en disant que les médias étrangers vont venir acheter la Suisse. Déjà aujourd'hui, la plupart des Suisses, quand ils regardent les chaînes étrangères, excusez-moi, mais ça ne devient pas des mauvais citoyens parce qu'ils ne regardent pas la RTS tout le temps. Donc arrêtez de vendre quelque chose de nationaliste et puis de souverainiste qui doit faire peur à tout le monde.
TF1 ne traitera jamais d'un objet de votation cantonale. TF1 ne traitera jamais d'un objet de votation fédérale. Ne racontez pas n'importe quoi.
Ce débat s'achève ainsi. En tout cas, il est bien sûr à continuer. Nous allons d'ailleurs consacrer d'autres émissions et d'autres créneaux sur ce débat, bien sûr, fondamental pour la survie des médias. Nicolas Hutzet, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes le président du comité de campagne Nobilag en Suisse romande. Et Mathieu Béglin aussi, vous présidez le conseil du public de la RTSR. Bonne soirée à vous deux.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Place publique.
La lutte contre le terrorisme passe par la prévention. La Confédération, les cantons et les communes s'unissent pour prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent. Un plan national a été dévoilé lundi. En tout, il comporte 26 mesures, des mesures qui prolongent de nombreux efforts déjà entrepris ou qui complètent des projets de loi en cours. En tout, la Confédération compte débloquer 5 millions de francs pour soutenir des programmes d'impulsion ces 5 prochaines années. Alors avec nous pour en parler, André Duvillard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué du Réseau National de Sécurité. 26 mesures avec, pour plusieurs d'entre elles, la nécessité d'étudier le phénomène, mais aussi de former les personnes qui sont en contact avec d'autres personnes à risque ou vulnérables. C'est important de bien vraiment comprendre le phénomène avant de pouvoir agir.
Oui, je crois que c'est ce que nous sommes rendus compte au cours des deux dernières années, nos contacts que nous avions, que ce soit avec des gens du domaine de l'enseignement, mais aussi des travailleurs sociaux, c'est qu'il y avait évidemment cette espèce de un peu de désarroi face à ce phénomène. Il manquait souvent à ces personnes des clés de lecture hein, pour bien comprendre la problématique. Raison pour laquelle c'est un des champs d'action que nous avons mis en évidence, c'est celui de pouvoir former. Alors pas de former, par exemple, tous les enseignants d'un canton, mais simplement de former, on va dire, des personnes clés, des personnes ressources qui puissent ensuite être à disposition de leurs collègues. Je crois que ça, c'est un élément important. Parce qu'il y a évidemment différents aspects qui sont présents dans la radicalisation. Il y a l'aspect religieux, il y a l'aspect passage à l'extrémisme violent. Et puis, il faut pouvoir donner juste quelques outils pour, on va dire, appréhender les premiers signes d'une radicalisation.
Avec, vous l'avez dit, la nécessité de maintenir le contact avec les communautés religieuses. Pourtant, vous n'allez pas jusqu'à régler la transparence financière des communautés religieuses. Pour quelles raisons ?
Alors, la question du financement des communautés religieuses était un thème que nous devions aborder dans ce travail, dans ce plan d'action. Et puis, à la suite de plusieurs réunions avec l'ensemble des services compétents, il est apparu qu'il y a une certaine complexité dans ce problème. Alors, les associations religieuses, les communautés religieuses sont pour la plupart des associations au sens formel du terme. On sait qu'aujourd'hui, on a évidemment, sur le plan du financement, les associations en général, certaines lacunes. Mais évidemment que vous ne pouvez pas décréter des mesures plus restrictives uniquement à l'encontre des communautés religieuses musulmanes, par exemple. Donc il s'agit de trouver ici plutôt un dénominateur commun. Et aujourd'hui, dans les différents travaux qui sont menés à l'échelon de la Confédération, on parle plutôt d'imposer certaines mesures comme l'inscription au registre du commerce ou encore d'annoncer les membres d'une association pour toutes les associations qui auraient des transferts vers ou depuis l'étranger, mais qui évidemment dépassent les simples associations religieuses.
Il est question aussi de détection précoce, c'est important d'agir le plus tôt possible. Et à ce titre, il y a un logiciel zurichois, une expérience zurichoise qui permet donc de reconnaître ces signes de l'extrémisme qui pourrait être étendu, appliqué à d'autres régions.
Oui, alors un institut zurichois a développé un outil qui est plutôt, on va dire, un questionnaire structuré qui permet aux personnes qui sont confrontées à des jeunes ou à des adultes dont on soupçonne qu'ils pourraient se radicaliser, de répondre tout à une série de questions. Et puis ensuite, ce questionnaire est analysé par des spécialistes, et puis ça va donner, on va dire, quelques indicateurs pour savoir si on est face à une personne qui pourrait se radicaliser ou bien quelqu'un qui est simplement, qui fait de la provocation. Alors ce logiciel est aujourd'hui utilisé dans 11 cantons, mais il en existe d'autres, mais je crois que simplement ce sont des... Il ne faut pas le voir comme le logiciel qui va vous donner une application, qui va vous donner des lumières vertes, oranges ou rouges, mais simplement vraiment une aide pour que les spécialistes puissent savoir si on est face à quelqu'un qui se radicalise ou non.
André Duvillard, il y a aussi la nécessité de prendre en charge correctement les personnes radicalisées qui ont été condamnées à des peines carcérales. Les cantons n'ont pas forcément les moyens adaptés aujourd'hui pour gérer ces détenus.
Alors notre système de l'exécution des peines fait qu'un détenu est toujours attribué à un canton, même s'il a été condamné par un tribunal pénal fédéral, ce qui est le cas pour les affaires de terrorisme. Et puis évidemment que, je ne vais pas dire que ça répond à une règle du hasard, mais il y a un certain nombre de critères, mais ce qui fait qu'un grand nombre de cantons peuvent être concernés par ces mesures. Et puis évidemment qu'on n'a pas des milliers de cas, donc on sait que ce sont des cas complexes à suivre. On a quelques expériences maintenant déjà en Suisse. Et notre idée est de pouvoir, d'une part, offrir un catalogue de mesures envisageables dans ce cadre-là. Et puis aussi, l'autre élément qui nous paraît extrêmement important, c'est de savoir qu'au terme de l'exécution des peines, on peut considérer qu'une personne est, encore dangereuse, a encore un potentiel de violence. Il s'agirait là encore d'assumer un suivi, tout en sachant qu'on ne peut évidemment pas contraindre une personne hors de l'exécution des peines à suivre des mesures, mais de simplement sur une base volontaire. Mais là, un certain nombre de pays ont fait des expériences, je pense en particulier à la Hollande, qui a réussi à développer un programme de volontariat qui fonctionne assez bien. Mais il faut être aussi extrêmement clair, le taux de réussite, on va dire, de désengagement ou de réintégration, je crois qu'aujourd'hui le terme de déradicalisation est devenu un peu obsolète, et il faut être modeste dans le succès, puisque les pays qui ont quand même un retour sur plusieurs dizaines, voire centaines de cas, parlent de 50% de chances de succès, donc ça veut dire qu'une personne sur deux gardera un potentiel élevé de violence. Et je crois que malgré cela, je crois que ça nécessite de faire cet investissement pour ces personnes-là.
La France s'est cassée les dents sur la question. On peut dire que votre plan national de prévention, eh bien, il prend les meilleures recettes appliquées ici et là, en Suisse et même ailleurs, pour les étendre. Par exemple, la création d'une ligne téléphonique de conseil, comme il s'en est créé à Bienne au mois de septembre, ou aussi récemment dans le canton de Genève.
Oui, je crois que c'était un débat qui était assez important. Il y a eu une première idée qui était de dire nous créons on va dire une ligne nationale. Cette proposition n'a pas été validée par le Conseil fédéral et je crois que c'est juste parce que la radicalisation, les réponses à la radicalisation se font surtout à l'échelon local parce que c'est là où on connaît mieux le tissu associatif, qu'on connaît mieux le tissu socio-éducatif. Et par contre, je ne pense pas qu'il faille dans chaque canton mettre sur pied une telle ligne. Alors le canton de Genève l'a fait de manière très professionnelle, avec un certain succès, et je crois que le ministre Pierre Maudet en a fait la proposition encore cette semaine, et pourquoi cette ligne ne pourrait pas être celle de tous les cantons romands, parce qu'il s'agit de prendre un appel, on va dire de rassurer les personnes qui ont quelques soucis face à leurs proches qui pourraient se radicaliser, et puis ensuite immédiatement évidemment transférer ces personnes dans le canton de domicile où des structures adéquates devraient prendre en charge les différents cas.
Le fédéralisme n'est donc pas un frein à ce genre d'innovation, le fait que chaque canton a son mot à dire, que la Confédération refuse parfois d'assumer certaines propositions.
Alors, je crois que l'élaboration du plan d'action national a été un magnifique exercice de fédéralisme, puisqu'étaient impliqués les trois niveaux d'organisation politique, commune, canton et confédération, mais aussi parce que les autorités, les services compétents le sont essentiellement à l'échelon local. Alors on a vu que parfois ça nécessite un tout petit peu plus d'énergie, mais je crois que la solution que nous avons réussi à développer, en particulier avec le fait que la Confédération mettra à disposition 5 millions qui reviendront finalement au projet des cantons et des communes, prouve qu'on arrive dans un délai somme toute relativement acceptable, puisque nous avons débuté nos travaux à fin septembre de l'année dernière. Donc en une année d'arriver avec un projet qui est accepté par toutes les parties, tout en assurant une partie de son financement, montre que le fédéralisme présente tout de même certains avantages.
Merci beaucoup André Duvillard, délégué du Réseau National de Sécurité, de nous avoir rejoints dans Place Publique. On vous souhaite une bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Place Publique.
Il y a 25 ans, les Suisses refusaient d'entrer dans l'espace économique européen. Le 6 décembre 1992, 50,3% des citoyens du pays disaient non à l'EEE, présenté comme l'antichambre de l'adhésion à l'Union européenne. On se souvient bien sûr du conseiller fédéral Jean-Pascal Delamura qui nous annonçait un dimanche noir et qui nous prédisait aussi des lendemains douloureux pour la Suisse. Alors on revient dans Place Publique pour cette dernière partie d'émission sur ce vote historique qui a bien sûr déchaîné les passions. On analyse aussi les conséquences de celui-ci avec nos deux invités. Claude Frey, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez à l'époque conseiller national de Châtelois, radical, avec nous également. François Lachat, bonsoir.
Bien le bonsoir.
Également conseiller national, PDC
Est-ce
jurassien.
Vous m'entendez bien ?
Oui, on vous entend à merveille.
C'est parfait.
Pourvu que ça dure. Claude Frère, retour dans le passé, on commence avec vous, il y a un quart de siècle. Quelles sont vos images ? Qu'est-ce qui reste 25 ans après ?
L'image, c'est un bégaiement de l'histoire. Le EE, c'est l'histoire qui a bégayé. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas que l'espace économique, pour beaucoup, était l'antichambre de l'adhésion. C'était au contraire le moyen d'éviter l'adhésion. En tout cas, c'était ma conviction et c'est pour ça que j'étais pour. Monsieur Lachat était peut-être pour l'antichambre. Moi, en tous les cas, c'est parce que j'estimais qu'il ne fallait pas aller dans l'Union, qu'on avait cette solution qui était assez suisse. Et puis ça a basculé, et ça a basculé le 20 mai 1992. Pas le 6 décembre, le 20 mai 1992, le Conseil fédéral a eu l'idée, saugrenue, par 4-3, il décide de déposer la demande d'adhésion. À partir de là, permettez-moi de vous le dire crûment, c'était foutu. La brèche était ouverte et à ce moment-là, on avait ouvert un boulevard à l'UDC qui apparaissait comme le seul parti à dire non à l'adhésion. Voilà pourquoi on a eu ce 50,3. S'il n'y avait pas eu cette demande d'adhésion, alors nous serions dans l'espace économique. Je ne sais pas si c'était pour notre bien ou pas. Ça, on peut en parler après.
François Lachat, est-ce que ce souvenir du 6 décembre 1992 est encore douloureux pour vous ?
Oui, il est douloureux. Je partage en partie ce que vient de dire mon ami Claude Frey. Voyez-vous, tous les partis étaient exactement coupés en deux.
Ouais.
Pour la demande d'adhésion chez les radicaux, pour le oui, Glamura, pour le contre, Billiguer. Chez les socialistes, oui, Felbert, non, Stige. Au PDC, oui, Coty, non, Colère. Celui qui a fait pencher la balance, il était seul, c'était Ogui.
Et L'UDC en plus.
UDC en plus.
Ouais.
Et je crois que ce que vient de dire Claude Frey est juste. Je pense que c'était fichu. Et j'en veux pour preuve, à l'époque, j'étais président de la section jurassienne du NOMES. Et à ce titre, j'avais demandé...
Du nouveau mouvement européen. Hein.
Oui. Et j'avais demandé à cette époque-là au Parlement jurassien s'il pouvait inviter Franz Blankart, qui était notre secrétaire d'État. C'était celui qui avait fait l'ensemble des négociations en faveur de l'espace économique européen. Franz Blankart était venu, figurez-vous, devant tout le Parlement jurassien. Le malheur est que Franz Blankart, pour lequel j'avais, et j'ai toujours, une grande admiration, s'est cru dans l'obligation de flinguer Blocher au lieu de nous parler du fond. Il a quand même pas provoqué des noms, puisque le Parlement était dans son immense majorité en faveur de l'espace économique européen. Mais ça veut dire qu'il y a eu des erreurs.
Il y a eu des erreurs.
Y compris de Franz Blankart, des erreurs, et qui ont coûté cher. C'est pour ça que moi, je prétends encore que c'était un dimanche noir. Je prétends que c'était une division de la Suisse. On n'avait pas besoin de cela. Et voilà.
Deuxième question fondamentale que je pose à vous deux. On commence avec vous, Claude Frey. Si c'était à refaire, vu tout ce qui s'est passé, vu aussi retournement spectaculaire des mentalités sur cette question européenne, si c'était à refaire, est-ce que vous revoteriez oui à cet espace économique européen qui existe toujours d'ailleurs ?
Je ne le voterai plus. Parce que l'évolution au sein de l'Union européenne, l'évolution qu'on peut encore voir, écoutez, la liste grise pour la Suisse, on vient de donner 1 milliard et on nous met sur une liste grise avec les îles Caïmans. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'Union européenne sur ce point ? Qui s'est bien gardé d'ailleurs de mettre quelques pays que ce soit de l'Union dans la liste.
On aurait mieux fait d'entrer
donc,
du coup.
Le Luxembourg, etc., tous ceux, ils sont blancs comme neige. Et puis aux États-Unis... C'est la même chose.
Une balle dans le pied, là.
Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'était à refaire, je ne le referais pas. Parce que dans le fond, j'ai vu que dans l'immense majorité de ceux qui votaient oui, c'était l'esprit de l'antichambre, le premier pas. Alors que moi, c'était pour mieux dire non à l'adhésion. Quand dans les campagnes électorales, on me demandait si j'étais favorable à l'adhésion, pour faire court, je disais, si on entre dans l'Union, je prends le maquis. Ça permettait d'éviter de faire des phrases ensuite. Alors voilà, mais je ne crois pas que, si je me rappelle la campagne il y a 25 ans, on disait, si ça échoue ou si ça passe, dans les deux camps, on annonçait une catastrophe en cas de rejet ou d'acceptation. Et ça ne s'est pas produit comme ça.
François Lachat, la voie bilatérale, eh bien, elle a fonctionné. C'était d'âpres négociations, mais quand même, depuis les années 2000, on peut dire que la Suisse a plutôt brillé économiquement. Si c'était à refaire, est-ce que vous hésiteriez à reglisser un oui dans l'urne ?
Fondamentalement, oui, parce que je ne suis pas d'accord là-dessus avec Claude Frey. Il ne s'agissait pas de faire l'antichambre. Et quand il parle de l'antichambre, il nous dit, donc, il y pense à l'antichambre, Claude Frey, quand il nous dit, la preuve, c'est l'évolution de l'Union européenne. Or, l'espace économique européen n'était pas notre entrée dans l'Union européenne. Donc, il ne faut pas mélanger les deux choses. Mais où je vois que les choses vont mal, Blocher s'est opposé. Il a parlé qu'on allait avoir un chômage énorme. Bien sûr, on a eu un chômage gigantesque. on a été le pays qui avait le plus de chômage dans toute l'Europe. Il a dit la même chose en ce qui concerne les bilatérales. Or, il était contre, bien sûr, les bilatérales. Donc, il voulait quoi? Il était contre l'espace économique européen et contre les bilatérales. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais rapporteur général au nom de la commission de politique extérieure pour les accords bilatéraux 1. Et là, bon, on est dans les bilatérales, mais on est dans quelle position dans les bilatérales? Nos banques veulent un accord important pour la libre circulation des capitaux. Nos producteurs d'énergie veulent un accord pour la circulation de l'énergie. Eh bien, nous ne les aurons pas. C'est ça qui est malheureux. Et je vois la Norvège. La Norvège a voté oui. La Norvège est dans l'espace économique européen. Elle ne se plaint pas. Et je m'imagine qu'elle ne voterait pas non si elle devait voter aujourd'hui.
Parce que la Norvège n'a pas du tout la situation que nous connaissons. Ils ont vraiment tout un autre marché. Non, mais je constate qu'on annonçait les pires catastrophes, que ce soit l'oui ou que ce soit le non. Dans les deux camps, on annonçait des catastrophes. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu quelques inconvénients, c'est vrai. En revanche, on n'avait pas à prendre sans autre tous les accords. Donc, ce sera à refaire. Je ne le referai pas.
Rapidement, à vous deux, il y a quand même un agenda chargé et assez aussi déterminant pour nos relations avec l'Union européenne qui s'annonce. C'est notamment les craintes qui continuent autour de l'immigration et cette volonté de l'UDC de dénoncer la libre circulation. Comment vous regardez la suite? Dans 25 ans, la Suisse en sera où avec l'Union européenne, François Lachat?
Écoutez, si on veut faire sauter l'accord sur la libre circulation des personnes, vous avez la clause du guillotine et les 6 autres accords des bilatérales tombent. Là-dessus, je suis persuadé que l'Union européenne ne fait pas du chantage, mais ça va être clair. C'est dans l'accord, signé, négocié par... Kellenberger, c'est négocié par Kellenberger, signé par Coty et de la Murat, et après, ça passait. Mais maintenant, nous avons cette clause, et cette clause guillotine, c'est terrible. Nous ne pouvons pas avoir l'accord sur les banques, nous ne pouvons pas avoir l'accord sur l'énergie, parce qu'on nous demande un accord général.
Claude Frey, comment vous voyez la suite, vous, de votre
moi,
côté?
Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plus de courage du côté du Conseil fédéral. Quand je vois que sans autre, sans négociation, on donne le milliard, et puis que juste après, on nous ferme encore des portes, ça, j'ai de la peine, vous comprenez? Et je vois que dans l'affaire des banques précédemment, la Suisse a cédé systématiquement. Madame Schlumpf a fait beaucoup de tort sur ce point.
Vous êtes devenu plus sceptique. Est-ce que vous suivez l'UDC dans son combat contre la Cour des juges, contre l'immigration, contre cette libre circulation? Est-ce que vous êtes tenté par ce schéma?
Je ne suis pas tenté par ce schéma, mais je dis, puisque l'Angleterre, avec le Brexit, est dans une négociation tout à fait intéressante pour nous, wait and see. Il suffit de voir ce que l'Angleterre va faire, et là je rejoins curieusement Mme Calmiret quand elle dit « attendons ».
Eh bien, on va attendre. Merci à tous les deux d'être venus dans Place Publique. Claude Frey et François Lachat, tous deux anciens conseillers nationaux. On vous souhaite une excellente soirée à tous les deux.
Bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée.
Place Publique.